Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Alors, ce matin, je vous propose un message imaginaire. Imaginez que nous soyons le 25 décembre, c'est bientôt. Vous êtes réunis en famille, et puis vous êtes installés dans votre salon en train d'ouvrir les cadeaux de Noël. C'est la fête. Les bougies sont allumées, les guirlandes scintillent. Sur la table, il y a beaucoup de bretel, pour ceux qui comprennent l'alsacien. Et puis tout à coup, toc toc. Mais il n'y a personne qui doit venir encore aujourd'hui, dit Cécile, 8 ans. Ah, je vais aller voir qui est là, répond papa. Il tourne la clé et ouvre la porte. « Bonjour, qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Jésus. Est-ce que je peux passer un moment avec vous ?»« Oui, bien sûr, entrez. » L'invité surprise se présente et salue chacun des membres de la famille chrétienne réunie. Tout le monde a les yeux fixés sur lui. « J'aimerais que vous me fassiez visiter votre cave. » La cave, c'est peut-être la dernière pièce qu'on souhaite montrer à ses invités. En plus, un 25 décembre. Le papa dit « Ah, mais il faut que je range un peu mieux là en bas. » Et j'ai dû de répondre « Eh bien, ça tombe bien. Je vais vous donner un coup de main. » Vous savez, dans la vie, il faut faire régulièrement du tri. Alors voilà le message de ce matin. C'est un message tiré d'une série de messages sur le thème « Et si Jésus venait chez vous ?» Et donc, à chaque message, il vient dans une autre pièce de votre maison et on aborde un thème différent. Alors, dans d'autres églises, j'ai fait la série et puis, une fois, c'est dans le salon. Alors, on a parlé de l'intimité. Une fois dans la cuisine, qu'est-ce que vous mangez ? Quelle est votre nourriture spirituelle ? Dans la chambre des parents, comment vous vivez votre vie conjugale devant Dieu ? La chambre des enfants, l'éducation chrétienne, qu'est-ce que c'est ? Et puis aujourd'hui, on va aller dans la cave. On va aller dans la cave. Que jetez-vous ? Qu'amassez-vous ? Que jetez-vous ? Qu'amassez-vous ? Alors le Père ajoute ce commentaire, mais j'allais oublier de vous prévenir, Jésus. C'est presque impossible de marcher dans ma cave. Il y a du matos partout. Il y a de quoi en faire quelques brocantes. La cave peut être synonyme de matériel entassé. Il y en a qui stockent de tout dans la cave. D'autres le font dans leur grenier ou dans la grange. Et puis certains qui vivent en appartement, ils ont une petite pièce. Et quand on l'ouvre, il y a tout qui tombe sur vous. L'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour conserver et un temps pour jeter. Alors ce matin, la question est là, qu'est-ce qu'on va garder et qu'est-ce qu'on va mettre à la déchetterie? Et peut-être aussi, qu'est-ce qu'on va acheter à la place? Jeter peut être difficile pour certains, surtout pour les bricoleurs, qui ont comme réflexe premier, ça peut encore servir. Jésus peut-il nous conseiller sur ces questions ? Oui, évidemment. Et on va lire un premier passage où il nous parle de jeter et conserver. Voilà, ça y est. C'est dans Matthieu 6, verset 19. « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors dans ce passage connu, Jésus nous dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas amasser et des choses qu'il faut amasser. Jésus oppose les richesses de la terre, qui sont passagères, avec des trésors du ciel qui sont durables. Jésus nous dit aussi que les richesses de la terre sont incertaines. Les maisons palestiniennes étaient généralement faites de torchis faciles à percer. On pouvait aussi creuser un trou sous les murs pour pénétrer dans la maison. Et Jésus en conclut en disant que ce qui est déterminant, c'est la disposition de notre cœur. Notre cœur, à qui est-il attaché ? Aux choses d'en bas ou attiré vers les choses d'en haut ? Oh, il n'y a rien de mal à être riche. La question n'est pas de savoir si je suis riche ou moins riche, mais de savoir où est mon cœur. Qu'est-ce que je chéris le plus et le plus profondément ? Intéressons-nous un instant aux richesses de la terre. La préoccupation d'amasser est-elle présente souvent à notre esprit ? Le psychologue Claude Boutin dit des femmes atteintes de la fièvre acheteuse que le shopping est une source de plaisir, de fierté et d'apaisement. Nous sommes dans une société de consommation qui nous bombarde de publicité pour souvent créer en nous des besoins qui n'en sont pas. Notre calendrier est saturé d'événements pour nous pousser à tout le temps acheter. 8 semaines de soldes par an pour faire le plein de fringues, chocolat à Pâques, déguisement à Halloween et en ce moment, les marchés de Noël. En passant, j'étais hier à Aiguissam, il est joli. Tout est fait pour qu'on amasse et pour que le business tourne à fond. On a posé la question au célèbre homme d'État américain Benjamin Franklin. Pourquoi les grandes richesses sont-elles si souvent accompagnées de beaucoup de soucis ? Il a répondu par une illustration. Je la cherche. Ça y est. Pour toute réponse, Franklin prit une pomme et l'offrit à un enfant jouant près de lui. Le gros fruit tenait à peine dans ses petites mains, mais ses yeux brillaient de joie. Il allait y mordre quand Franklin lui en tendit une deuxième. Avec avidité, le petit garçon la saisit de l'autre main. Avec difficulté, il essaya de porter la première pomme à la bouche. Franklin choisit alors une troisième, la plus grosse qui lui restait, et l'offrit à l'enfant. Comme il n'y arrivait pas à la prendre, chargé qu'il était des deux autres pommes, il la laissa tomber et éclata en sanglots. « Voyez-vous, dit Franklin, ce petit enfant possédait trop de biens terrestres pour pouvoir en jouir. » Comme alternative au plaisir éphémère de la vie, Jésus nous invite à amasser des trésors dans le ciel. Des trésors dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette expression ? Qu'est-ce que ça sous-entend ? Des trésors dans le ciel. Alors on va un petit peu explorer cela. D'abord par une nouvelle petite histoire. André part pour une ville à l'étranger pour entreprendre des études universitaires. Lorsqu'il prend congé de ses parents, ceux-ci lui font cadeau d'une Bible en lui spécifiant qu'elle lui sera d'un grand secours. Le temps passe. André envoie régulièrement des nouvelles à ses parents, mais surtout il leur demande de l'argent. Par retour de courrier, en guise de réponse, il l'encourage vivement à lire la Bible, tout en lui indiquant tel ou tel verset. Mais malgré les conseils de ses parents, André persévère dans ses requêtes matérielles. Le temps des vacances arrive, André rentre à la maison, ses parents l'accueillent et lui reprochent de n'avoir jamais lu la Bible. « Mais comment vous pouvez dire cela ? Qu'est-ce que vous en savez ? » ?»« Nous savons que tu ne l'as pas jamais ouverte, puisque nous y avons glissé des billets de banque aux pages indiquées aux références dans nos courriers. Oui, les trésors du ciel, nous pouvons les trouver déjà dans la parole de Dieu. C'est un véritable trésor. Et ce véritable trésor, ce ne sont pas les billets de banque dont on vient de parler, que André voulait, mais ce sont les richesses de la parole de Dieu. L'Écriture est-elle une richesse pour vous ? Est-elle un trésor pour vous ? Toute Écriture, vous le connaissez bien ce verset, est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Alors, c'est dans la parole de Dieu que nous allons trouver quelques trésors. En voici un grand trésor que nous y trouvons, Colossiens 3, verset 1. Mais vous êtes aussi ressuscité avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, les richesses du ciel, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Investir dans les réalités d'en haut, dans les trésors du ciel, voilà qui est sage et rentable. Et le premier trésor à trouver, vous le voyez ici en gras, c'est tout simplement Jésus-Christ. Le connaître, être identifié avec lui, apprendre à l'aimer, développer une relation d'amour avec lui dans la prière, l'écouter, lui confier mes préoccupations, trouver mon plaisir dans sa présence, le louer, voilà une bonne priorité. De nombreux témoignages de chrétiens, et nous en avons entendu un ce matin, sont là pour nous montrer et nous dévoiler combien Jésus peut être le plus grand trésor. Je vous en partage un de Yasmina, une chrétienne d'Afrique du Nord. Jeune femme originaire d'Afrique du Nord, Yasmina a perdu son père à l'âge de 21 ans. Puis, 6 ans plus tard, sa mère est décédée après une longue lutte contre le cancer. C'est après la mort de son père que Yasmina a commencé à s'interroger sérieusement sur Dieu et à remettre en question son existence. Alors qu'elle étudiait le droit à l'université, certaines camarades l'ont encouragée à lire le Coran et à prier 5 fois par jour pour connaître Dieu et sa parole et trouver du réconfort. Il me disait que je trouverais les réponses à mes questions sur l'existence de Dieu, le mal et la souffrance. Je pensais que cela m'aiderait peut-être à surmonter ma tristesse et mon angoisse. Mais la mort de ma mère a de nouveau fait naître le doute. Si Dieu existe, pourquoi permet-il la souffrance ? Seule dans sa chambre pendant le Ramadan, Yasmina lance un appel désespéré. « Si tu existes, qui es-tu vraiment ?» C'est alors qu'un souvenir surgit. Les histoires de Moïse et de Jésus-Christ qu'elle avait lues dans un livre musulman. Intriguée, elle se tourne vers les récits bibliques. Toutefois, touchée par la personne de Jésus, Yasmina décide d'en apprendre davantage sur sa vie. Progressivement, elle découvre l'Évangile et pour la première fois comprend qui est Dieu. « J'étais triste, dit-elle, submergée par la peur et l'insécurité. La vie n'avait ni sens ni valeur pour moi, mais Dieu m'a aidé à surmonter tout cela. Il a donné un sens à ma vie. J'ai goûté à la vraie joie et à la véritable paix lorsque j'ai confié ma vie au Seigneur Jésus-Christ. » Sa conversion provoque la colère de sa famille. Ses frères l'accusent d'avoir déshonoré leur nom. Sa sœur cadette, également convertie, subit des pressions. Le rejet familial est brutal. « Mes frères étaient en colère et bouleversés, surtout quand j'ai commencé à aller à l'église, dit-elle. » Pour eux, c'était comme si j'avais déshonoré la famille. Ils pensaient que notre avenir était ruiné. Nos cousins et nos voisins ont essayé de faire pression sur mes frères pour qu'ils nous le punissent, ma sœur et moi, car on a mis notre foi en Jésus-Christ. Mais face à l'adversité, Yasmina, qui a découvert le véritable trésor, Jésus-Christ, a trouvé en lui son réconfort. Sa soif de le connaître et de grandir dans la foi l'a poussée à suivre aussi une formation biblique dans son pays. Les cours m'ont permis d'approfondir ma connaissance de Dieu, de la foi chrétienne et de l'Église. J'ai trouvé des réponses aux questions qui me tourmentaient dans la Bible, sur la souffrance et sur le mal. Oui, Jésus est le trésor le plus précieux de beaucoup de chrétiens persécutés et ils sont un témoignage authentique et vivant qui vaut la peine qu'il soit notre plus grand trésor. Ils sont prêts à souffrir pour son nom, à ne pas le renier. Eh bien, nous aussi, soyons des témoins de Jésus. Puissions-nous, nous aussi, découvrir et vivre Jésus comme notre plus grand trésor. Le plus grand trésor, c'est de connaître et de vivre avec Jésus. C'est également le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le psalmiste dit, fais de l'Éternel tes délices. Amasser des trésors dans le ciel, c'est aimer Jésus de manière concrète sur terre. Je mène une vie qui l'honore ici-bas et j'en recevrai la récompense dans l'au-delà. Avons-nous des recommandations dans l'Écriture sur comment faire des récoltes durables durant notre passage sur terre? Alors, oui, connaître Jésus, mais nous avons encore d'autres choses. Ici, l'apôtre Paul, aux Galates, dit « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne nous relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. » Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons le bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Amasser du bien, faisons du bien. Faisons du bien pour amasser, pour récolter, nous dit le verset. Faisons du bien, deux fois. Amasser et récolter pour l'éternité. L'apôtre Paul nous dit donc deux fois, faisons le bien. Multiplions les actes d'amour de mille et une manières. Alors, nous pouvons le faire en donnant, en aidant, en écoutant, en priant, en conseillant, en pleurant avec quelqu'un, en téléphonant, en écrivant, en parlant, en gardant le silence, en souriant, en invitant, en accueillant, en servant, en pardonnant, en réconfortant, en reprenant, en avertissant, en partageant le message du salut. Toutes ces choses-là, nous pouvons le faire en aimant. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le deuxième grand commandement que Dieu nous donne. Alors tout est important, même les petites choses. Un petit mot d'encouragement, un sourire, une main tendue, un café offert. Entre ne rien faire du tout et faire un petit quelque chose, il y a un monde. La règle d'amour du prochain est simple, Matthieu 7, 12. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Alors, comment amasser des trésors dans le ciel? C'est en aimant la parole de Dieu. En aimant Jésus, qui est celui qui est la révélation centrale de cette parole. Et en aimant notre prochain, en commençant par nos frères et sœurs en la foi. Revenons à notre visite imaginaire de Jésus. Jésus qui reprend la parole, on a évoqué ce qui est important d'amasser. Je vois au milieu de tout ce matériel dans votre cave une pièce particulière où vous avez de nombreuses bouteilles. Alors, est-ce que vous savez quelle est la plus grande cave à vin du monde? Elle est là sur la photo. Elle se trouve à Cracovie, en Moldavie, sur un site souterrain de 60 km de galerie, à une profondeur de 35 à 80 mètres. La conservation de vin y est idéale avec un taux de 96% d'humidité et une température constante de 10 à 12 degrés. Qu'est-ce que Jésus peut bien penser de cette cave à vin qui se trouve chez vous? Moi, je n'ai pas beaucoup, j'ai quelques bouteilles, moins de 10. Il n'y a rien de mal à boire du vin de temps en temps, n'est-ce pas? Un bon vin d'Alsace ou un rouge de Bordeaux. Un peu de vin peut être bon pour la santé, comme d'ailleurs l'a recommandé l'apôtre Paul à son disciple Timothée. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, lui dit-il. Évidemment, vous avez compris, il y a une différence entre consommer avec modération et donner à votre invité l'envie de se mettre un mouchoir sur le nez. Si notre verre peut être à moitié plein ou à moitié vide, comme vous voulez, il y a des bouteilles à vider sans modération, et je ne parle pas du champagne. La Bible, nous l'avons vu, est comme une cave à vin avec 66 grands crus. Alors méditons les trésors de la parole de Dieu. Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si quelqu'un a soif, c'est-à-dire si quelqu'un est conscient de son besoin spirituel et souhaite réellement remplir le vide de son cœur, qu'il vienne à moi et qu'il boive, qu'il se laisse combler, qu'il se laisse remplir, qu'il se laisse désaltérer. J'imagine Jésus dire aussi, au lieu de vin, je te suggère un autre remplissage. Savez-vous ce que l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens d'Éphèse ? Éphésiens 5, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis. Et le mot rempli ici en grec signifie remplir jusqu'à rabord. Soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La transcription vivante nous dit « Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit ». Alors, si être rempli est un ordre, il ne s'agit néanmoins pas d'une performance à atteindre par soi-même. Il s'agit plutôt de laisser Dieu le faire en nous et d'être disponible pour qu'il nous remplisse. J'aime bien le témoignage de cet évangéliste britannique, Roy Essien, qui est décédé maintenant, et il nous dit ceci. « À un certain moment de ma vie chrétienne, j'ai connu la défaite et j'étais accablé par un sentiment d'échec. Un jour, en feuilletant négligemment un petit carnet de notes, je vis deux mots que j'avais griffonnés autrefois, « Sois rempli, sois rempli ». Il me semblait que ces paroles s'adressaient directement à moi. Mais Seigneur, j'ai chuté lamentablement. Je sais, mais sois rempli. Mais pas tout de suite après cet échec. Je dois certainement d'abord m'améliorer. Absolument pas. Sois rempli, et cela maintenant. Mais comment le puis-je, alors que je me sens si écrasé par mon péché ? Le sang de Jésus purifie de tout péché. Et patiemment, le Seigneur le reprit encore. Sois rempli maintenant. Sois rempli. Voilà la seule réponse que j'obtenais à chaque nouvelle pensée de doute. C'est le dernier message auquel je me serais attendu de la part de Dieu ce jour-là. Passer immédiatement de l'abîme le plus profond au sommet le plus élevé me semblait impossible. Mais quand je vis la puissance du sang de Jésus pour me purifier, je ne pus que courber la tête et dire « Amen Seigneur » en réponse à son commandement et à sa promesse, et recevoir son pardon et sa plénitude. Ce fut pour moi un jour de grande bénédiction qui rejaillirent aussi sur d'autres personnes. Ce n'est pas la consécration ni la piété qui qualifie un chrétien pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas réservé aux super-saints, mais à ceux qui ont fait faillite, aux pécheurs qui ont appris à se repentir et à se saisir de la puissance instantanée du sang de Jésus-Christ pour les purifier parfaitement. Alors j'imagine Jésus conclure cette discussion en disant « La vie chrétienne n'est pas une vie améliorée, mais une vie échangée. Je ne peux pas m'améliorer, mais je peux échanger ma vie contre la sienne. » Vous connaissez bien ce verset. « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai pas besoin de réaliser une performance, mais je peux venir à lui tel que je suis. Seigneur, pardonne-moi. » Et immédiatement, sa présence me remplit, quelle que soit ma situation. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est aussi la joie de Noël, la présence du Seigneur dans notre vie. Continuons notre petit voyage imaginaire dans la cave. Nous avons vu, il y a beaucoup de matériel. Nous avons vu qu'il y a des bouteilles. Et puis Jésus continue, et alors j'ai du rhume ce matin, mais Jésus, lui, sentait bien les choses. Ici, il y a une forte odeur d'humidité. Alors moi, je me souviens, il y a quelques années, j'habitais dans les Ardennes, à Charleville-Mézières. Et puis, à un certain moment, sous l'église, en dessous, voilà, il y avait un accès. Là, il n'y en a pas, mais il y avait un accès, on pouvait aller en dessous. Il y avait une cave en dessous. Et puis, au bout de cette cave, un compteur à relever, le compteur. Et il fallait le relever. On n'était jamais allé là en dessous, avec mon collègue missionnaire. Et puis, surprise, quand on ouvre la trappe pour descendre sous cette cave, on a vu à peu près ça. Il y avait environ un mètre d'eau des égouts. Inutile de vous décrire l'odeur. Alors mon collègue missionnaire Bernard m'a dit, écoute Joël, on va aller chercher des grands sacs à poubelle. On va en enfiler un dans chaque pied. On va le serrer en haut. Et tu traces dans cette eau jusqu'au bout, jusqu'au compteur, et tu relèves le compteur. Alors évidemment, je n'étais pas très emballé par son idée. C'est du moins qu'on puisse dire. Mais je l'ai fait. La cave peut symboliser ce qui est caché aux yeux des hommes. C'était caché là en dessous, on ne voyait pas tout ça. Après, finalement, la ville est venue et a tiré tout ça avec un camion. Ils ont sorti toute cette eau stagnante. Oui, il y a des choses qui sont cachées aux yeux des hommes, mais que Dieu voit. Hébreux 4, verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » La cave peut symboliser notre odeur de chrétien. Il y a des caves saines et d'autres qui sont plus humides ou qui sentent le moisi. Tout comme il y a des chrétiens qui peuvent être attirants et d'autres qui font un petit peu fuir. L'apôtre Paul dit à son disciple Timothée, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Voilà un bon parfum de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Sommes-nous, nous, une bonne odeur de Christ dans notre entourage, dans notre ville de Mulhouse, dans notre chère Alsace? Et puis dans l'autre catégorie, vous avez des chrétiens comme ceux de Corinthe. Ça sent un petit peu plus mauvais. Le témoignage est un peu sali. 1 Corinthiens 6. Or, si vous avez des litiges au sujet des affaires de la vie courante, vous prenez comme juge des gens qui ne comptent pour rien dans l'Église. Je le dis à votre honte. Notre odeur de Christ peut faire une différence par la grâce de Dieu. Je vous partage un témoignage. Adolescent révolté, je suis devenu un délinquant. J'ai donc séjourné longtemps dans des établissements d'éducation surveillés. Vers 18 ans, j'ai commencé à fumer du haschich et à prendre du LSD. Cela m'a conduit à laisser mon travail, à errer à travers l'Europe, à la manière des hippies dont je me réclamais. Mon programme, drogue, musique, recherche de l'amour et de la liberté. Mais je n'étais pas libre, loin de là. Un soir, dans un quartier du centre de Paris, où nous retrouvions, entre copains et copines, des chrétiens rayonnants de joie, donc qui étaient une bonne odeur de Christ, sont venus nous parler de Jésus. Jésus peut et veut pardonner vos péchés, vous donner la délivrance, m'ont-ils dit. Ils m'ont donné un évangile et sont revenus chaque vendredi et samedi soir nous parler de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en son Fils Jésus, mort sur la croix pour nos péchés. J'ai commencé à lire l'évangile de Jean pour prouver qu'il n'était pas vrai. Mais plus je le lisais, plus j'étais convaincu de son absolue véracité. Un jour, invité chez un de ces chrétiens, il m'a proposé de prier. J'ai accepté. Il a prié pour moi et j'ai senti la présence de Dieu. J'étais affligé du poids de mon péché et je lui ai demandé pardon. Il m'a pardonné et j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Sauveur et mon Seigneur. Il m'a donné son amour, sa paix, sa joie, le pardon, son salut merveilleux et la vie éternelle. Oui, Jésus peut faire une différence avec la bonne odeur aussi que nous pouvons partager et que nous pouvons transmettre autour de nous. Alors je vais conclure par une petite image. Le chrétien nage à contre-courant parce qu'il est un poisson vivant. Je me souviens d'un chant que j'avais appris lorsque j'étais en colonie de vacances en Suisse avec la JAB. Et le titre, c'est justement « Sois un poisson vivant ». Et c'est ce que nous sommes appelés. Et parce que nous avons Christ dans notre cœur, dans notre vie, nous sommes des poissons vivants. Alors je vous chante le refrain. « Sois un poisson vivant qui remonte le courant. Ce sont les poissons morts qui se laissent emporter. N'aie pas peur de l'effort, car tu es fait pour nager. Voilà, ça c'est le refrain. Donc nous sommes des poissons vivants, nous sommes comme des saumons. On nage à contre-courant dans ce monde. Nous, on est attirés par les richesses du ciel, alors que ce monde est attiré par les richesses de la terre. Mais nous avons Christ en nous, et nous sommes capables de faire les efforts pour vivre à sa gloire, parce que sa force est en nous, et c'est lui qui le fait en nous. Alors pour cela, nous pouvons le bénir et le remercier, afin que nous puissions briller aussi pour lui et le glorifier, en particulier aussi dans cette période de Noël. Jésus est venu, il est cette lumière du monde, qu'il soit notre lumière, la lumière qui brille dans nos cœurs, et que nous puissions en faire de plus en plus notre trésor. Que Jésus soit le trésor de notre vie pour cette nouvelle année, aussi 2026 qui se profile, que nous puissions apprendre à mieux le connaître encore, mieux l'aimer, le servir avec joie, qu'il remplisse nos cœurs de sa présence. Amen. On prie. Béni sois-tu, notre Dieu, pour ton amour pour nous. Nous pouvons prier et dire simplement, tu es notre plus grand trésor. Ça peut être des paroles qui peuvent être vite dites, mais j'aimerais, Seigneur, encore davantage que cela soit une réalité dans ma vie. Combien je suis réjoui quand je peux passer du temps avec toi, où je peux me confier en toi, où je peux tout te dire parce que tu es l'ami qui me comprend parfaitement. Je peux dire, oui, tu es mon plus grand trésor. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de cette terre qui me plaisent bien, qui m'attirent, mais j'aimerais, Seigneur, garder les yeux fixés sur toi et me réjouir en toi, apprendre à te connaître, apprendre à t'aimer. Gloire à toi, Seigneur. Continue cette œuvre de révélation dans nos cœurs, dans nos vies. Aide-nous à nous détourner de toutes ces choses vaines, ces trésors de la terre qui ne sont pas durables et qui ne satisfont pas véritablement notre âme, mais accorde-nous de découvrir en toi que tu es le bien le plus précieux. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous as préparé une place aussi au ciel. Le meilleur est devant nous et nous avons déjà un avant-goût de ce qui nous attend. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.